France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille un merveilleux couple d'artistes qui nous replongera dans le Paris des années 50. Lui s'appelle Robert Piquet, il a créé notamment La Belle Arabelle avec les frères Jacques et chanté partout l'auberge du Cheval Blanc. Elle s'appelle Jacqueline Derieux, elle a beaucoup joué sur les planches, mais c'est aussi la fille du grand producteur Max Derieux. Rendez-vous dans un quart d'heure avec Robert Piquet et Jacqueline Derieux. En fin d'émission, la chronique de Martin Péné en hommage à Yvette Giraud. Et sans plus attendre, sous ce soleil encore estival, je vous propose d'aller faire de la musique à la plage.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère. Un grand bonheur dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore, encore à toi, domicile. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en seul, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. C'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante et émue devant lui, je m'arrête. C'est une nuit, tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano, tu sais combien peuvent être cruels ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur ouvrant ses ailes. C'est bien alors la douce rengaine de toutes mes joies ou de mes peines, lorsque tu tapes, tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque et qu'un beau soir passé le bel âge, une autre que moi devant la piste s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans. Le vieux piano de la plage, piano, piano, la hi, la ha, la barari.
Le connaissiez-vous, cet enregistrement du succès de Charles Trenet par la grande Hazel Scott, pianiste et chanteuse de jazz américaine? Non, et bien voilà, maintenant c'est fait, un très joli morceau de musique qui me fait penser que à la plage, en plus, il paraît qu'elle est encore à 17 degrés en Normandie, l'eau de la mer. J'aurais drôlement envie d'aller piquer une tête. Mais bon, soyons raisonnables. Il vous reste 2 minutes 27 pour deviner qui a inventé la phrase « Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ?»
Il est des personnes qui vous questionnent, vous empoisonnent en vous disant où donc vous ai-je vu. Au lieu d'être discrète, elles vous embêtent par leur enquête jusqu'à ce que vous ayez répondu. Pour les satisfaire, pour les faire taire, y a rien à faire. Ces gens-là sont plus collants que la glu. Je crois que pour arrêter leur trop vive curiosité, le meilleur expédient, c'est de leur dire en souriant: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, est-ce que ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prend les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton boucher joue du banjo, si ton frotteur fait de la photo, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? La semaine dernière, l'allure fière, la mine altière, le percepteur m'a dit d'un ton bourru. Vos boutons de manchette, vos cigarettes, votre casse-noisette, la façon dont vous êtes chaussé, vêtu, votre perte de bretelles, votre haute vaisselle, tout me révèle que vous avez plus 100 000 francs de revenus. Au lieu de paraître embêté, d'être inspecté, suspecté, sans ressentiment, je lui expliquais poliment. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prend les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des Bruno, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton laitier joue au loto, si ton bottier boit de l'eau de boteau, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo?
Oui, le chanteur fantaisiste, c'était Rogers. L'orchestre, l'excellent orchestre qu'on a entendu, c'était celui de Joe Boyer. Mais c'est pas ça le nom que je vous demande, c'est que la formule « Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ?» Eh bien, elle a été inventée, comme beaucoup d'autres, par le grand, génial parolier Albert Villemette. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Par exemple, c'était aussi extrait d'une chanson d'Albert Villemette. Ce sont des morceaux de chansons qui sont entrés dans le langage courant. C'est pourquoi je voulais vous faire réécouter ce petit morceau extrait de l'opérette « Trois jeunes filles nues » en 1925, musique de Raoul Moretti, parole d'Albert Villemette, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans un album qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan, avec toutes les paroles des grands succès d'Albert Villemette, se préfacé par sa petite fille Jacqueline Villemette. C'est aux éditions L'Harmattan. Little Debbie, une petite pièce du maître de la musique légère anglaise Trevor Duncan, jouée par l'orchestre radio symphonique slovaque sous la direction d'Andrew Penny. Et puis, avant de retrouver mes invités et beaucoup d'opérettes en langue française, écoutons donc un peu d'opérettes en langue allemande. Je n'ose pas dire tout à fait viennoise, parce que même si le grand compositeur Leo Fall est plutôt un compositeur qu'on assimile à l'opérette viennoise, l'œuvre en question a été créée à Berlin en 1922. Elle s'appelle Madame de Pompadour. Madame Pompadour en allemand, et c'est donc une variation allemande sur un sujet français quelque peu rococo, comme aiment beaucoup les compositeurs de la musique viennoise et allemande. Cette opérette a d'ailleurs été adaptée ensuite en français au Théâtre Marigny en 1930, où elle a été donnée une bonne centaine de fois. On va écouter tout de suite deux petits extraits. Le premier, c'est au tout début de l'œuvre, dans une auberge parisienne où les gens se moquent un peu de la Pompadour sur le thème Pompadour, vous entendrez, même si c'est en allemand. Et puis tout de suite après, l'entrée de la Pompadour elle-même, déguisée en bonne femme, mais avec cette voix divine qui va nous conduire dans toute l'opérette.
Franco, sieh was ein neues ist, putz, die darf die Pompadour noch einmal vor.
Damit wir es alle lernen.
Wenn du doch mal singst, zahle ich eine Runde Bordeaux.
Bordeaux, famos,
bravo!
Die Pom, 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 Pompadour, die Pom, 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 Pompadour ist eine große, ha? Ist eine große Dame, gepriesen sei ihr, ha? Gepriesen sei ihr Name, die Pom, Pom. Pompadour, die Pompadour, die Pompadour.
Weiter singen!
Ja, die sorgt sich um unser Land nicht wenig. Alles tut sie allein von A bis Z. Und das Zepter von unserem guten König nimmt sie abends sogar mit sich ins Bett. Und der König sich köstlich amüsiert, wenn sie tüchtig damit herumregiert. Die Pom, die Pom, die Pom, die Pom, die Pom, die Pom, 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 Pompadour, die Pom, 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 Pompadour.
Bringt mich sonst aus dem Gleichgewicht und das mag ich nicht. Ich habe in den Fingern Zucken und Prickeln, ich möchte was zerschlagen, zertrümmern, zerstückeln. Und wenn das noch alles nicht erlangt, dann gibt doch was anderes. Gott sei's gedankt, heut, 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 heut. Heut könnt einer sein Glück bei mir machen. Wenn es der Richtige wär. Heut hätt Lust ich auf närrische Sachen und vielleicht gar auf noch mehr. Kiffen könnt ich heute so heiß, dass im Moment alles verwirrt. Was ich heut alles könnt, was ich heut alles
Gerda Scheirer, et juste auparavant, c'était Eric Dörner, donc dans le rôle de Calico, elle dans le rôle de la Pompadour. Un enregistrement qui nous vient des archives de la radio viennoise, qui date de 1963 et qui était placé sous la direction de Max Schönherr. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir d'autres œuvres de Léo Falk, qui est vraiment l'un des grands maîtres de l'opérette allemande et viennoise. Et puis dans un genre tout différent, j'ai ressorti pour vous aussi ce petit trésor de ma discothèque qui m'a m'a chatouillé l'oreille cette semaine, c'est le grand Eddie Cantor. Vous savez, cette figure du musical et du cinéma chantant américain, qui est connue notamment pour la chanson Whoopi. Mais celle-ci, bah, je ne la connaissais pas, elle est vraiment très jolie. Elle est extraite de la chanson, du film The Kid from Spain.
We want Panther, we want Panther.
Here I am. And now, my dear public, I'm going to sing one of the songs from my last picture, The Kid from Spain. Here goes. I just fell hook, line, and sinker for the sweetest gal in town. I'm all bound up with a brand new love affair. I can't tell which way I'm going, 'cause the world is upside down. I know that I'm gone. The panic is on. She's got lips that taste like wine. I like hers, she likes mine. What a perfect combination. No wonder we're in love. When she sits upon my knee, I take bits, so does she. What a perfect combination. No wonder we're in love. She taught me one thing. Love is only what you make it. And I know one thing. She can dish it out and we can take it. We both want a family. I want twins, so does she. What a perfect combination. No wonder we're in love. I like bread, she likes jam. I like eggs and she likes ham. What a perfect combination. No wonder we're in love. Can she cook? Can she sew? She can sew and sew and sew. What a perfect combination. No wonder we're in love. Once she liked crooning. Used to go for Rudy Valley. We started spooning. Now her radio is in the alley. I'll never rest until she's mine. And when she's mine, I'll never rest. What a perfect combination. No wonder we're in love.
Oh, scaricada. Caratten, oh, bitten, oh, bitten. Atatten, datten, da, ribbidi-bi.
She taught me one thing. Love is only what you make it. And I know one thing. She can dish it out and I can take it. Fragrant as a blushing rose. Wish I had Durante's nose. What a perfect combination. No wonder we're in love. Turn me over. I'm all done on this side.
Voilà, c'était Eddie Cantor en 1932 dans cette chanson du film The Kid from Spain intitulée What a Perfect Combination.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Et oui, c'est notre nouvelle rubrique hebdomadaire que nous vous proposons avec le concours de la discothèque centrale de Radio France. Cette semaine, c'est notre cher disquaire Romain Couturier qui nous a ressorti un petit trésor des archives. Un trésor d'ailleurs qu'avait déjà remarqué notre autre excellent ami Philippe Bourget. Voilà, il s'agit d'une valse viennoise ou plutôt d'un rock'n'roll, mais en version valse viennoise Rock Around the Clock. En valse, voilà, c'est un peu inattendu. Ça date de 1972 et c'est en fait un musicien anglais de la pop, monsieur Jonathan King, qui a été un des découvreurs de Genesis à l'époque, mais qui était aussi un fantaisiste, qui a participé à beaucoup d'albums improbables et qui avait réalisé un album donc avec des tas de détournements de musique intitulé Bubble Rock is Here to Stay. Et dans ce disque, donc, on retrouve ce Rock Around the Clock qui essaie de réconcilier les amateurs de valse et ceux du rock'n'roll.
1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock, 5, 6, 7, o'clock, 8, o'clock, rock, 9, 10, 11, o'clock, 12, o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Get your glad rags on and
Et voilà, Rock Around the Clock, c'est un 45 tours DK numéro 84085 pour les spécialistes qui vient donc de notre merveilleuse discothèque centrale de Radio France. Si vous avez des idées de vraies raretés, hein, jamais rééditées en CD pour cette rubrique, eh bien n'hésitez pas à me les soumettre, j'essaierai de vous faire plaisir. Mais pour l'instant, bah, j'espère que je vais vous faire plaisir parce que je reçois deux invités merveilleux. Ils sont venus ensemble, ils sont mari et femme, ils se sont connus dans les années 50. Lui a joué sur toutes les scènes d'opéra de cette époque, elle a joué plutôt au théâtre. Lui s'appelle Robert Piquet, elle s'appelle Chantal de Rieux. Je suis très heureux de les recevoir ce matin.
Elle me chasse, qu'ai-je entendu ? Elle ne manque pas d'audace. Je suis balancé comme un malotru et je perds mon amour et ma place. Elle est cruelle, mais son dédain me donne une ardeur nouvelle. Oui, tu verras, et dès demain, ce que peut faire un larvin. Adieu, adieu, je pars sans détourner les yeux. Mais avant 3 mois, vous entendrez parler de moi. Adieu, adieu, je couperai sous d'autres cieux. En Chine, au Texas, que j'ai tout pour faire un as. Je ne sais pas très bien encore si je deviendrai chercheur d'or ou chasseur de phoques au pôle Nord. Chef de bande chez les gangsters, pédicure chez Rockefeller, mais je serai bientôt millionnaire. Adieu, adieu, vous en faites pas pour moi, messieurs. Le petit Léopold nagera bientôt dans le pactole. Si vous voulez des nouvelles de mon morage, vous en trouverez en première page dans votre journal. Je ne sais pas très bien encore si je deviendrai chercheur d'or ou chasseur de phoques au pôle Nord. Chef de bande chez les gangsters ou pédicure chez Rockefeller, mais je serai bientôt millionnaire. Adieu, adieu, vous n'en faites pas pour moi, messieurs. Le petit Léopold nagera bientôt dans le bac. Si vous
première page dans votre journal.
Bonjour Robert Piquet.
Bonjour Benoît.
J'ai lu quelque part, il doit y avoir un zéro qui s'est rajouté, que vous aviez chanté 750 fois l'Auberge du Cheval Blanc.
Plus que ça.
Plus que ça.
Un peu plus de 1000.
Au Châtelet et puis dans
Alors,
toute la France.
Alors Châtelet et la tournée qui a suivi après.
Oui,
Alors je suis à peu près 1200 au moins.
Vous imaginez aujourd'hui une opérette qu'on donnerait à Paris plus de 100 fois, ce serait un événement. En tout cas, vous l'avez enregistré, là c'était avec Jean-Claude Casadesus qui dirige.
Oui, Jean-Claude Casadesus, il y a Nicole Brossin et André Jobin.
Et la distribution de l'époque au Châtelet.
Au Châtelet.
Vous avez aimé particulièrement ce rôle, ce beau rôle dont on vient de vous entendre.
C'est un des plus beaux rôles.
Oui.
Après avoir, bien avant, mais il y avait Valentin, Entré dans la danse,
oui.
La vie de Valentin le Désossé,
oui.
Bon, c'est une musique de Lafarge,
oui.
Qui était vraiment très...
Des rôles pour vous, quoi.
Oui. Ah, oui.
Vous pouviez combiner à la fois votre côté jeune premier et votre côté fantaisiste, au fond.
J'étais beaucoup plus fantaisiste que jeune premier.
On va y revenir, voilà. Ça, c'est une question qui m'intéresse. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui avec votre épouse, Chantal Derieux. Je vous appelle Derieux aujourd'hui, mais vous appelez peut-être Chantal Piquet.
À l'état civil, oui.
Voilà, vous êtes donc la fille de Max Derieux, dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, Chantal Derieux, vous avez vu, j'imagine, votre mari, Robert Piquet, dans l'Auberge du Cheval Blanc assez souvent.
Ça, souvent, presque tous les soirs, oui.
Presque tous les soirs, mais en même temps, c'est une époque où vous aviez déjà peut-être un peu pris vos distances, vous, avec le monde du spectacle,
pas vraiment
pour consacrer
encore.
À votre vie de famille.
Voilà. Pas vraiment encore, mais enfin, c'est venu tout doucement derrière. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été dans un cours avec Georges Chamara de la Comédie Française.
Oui.
Et donc, j'ai pu enseigner longuement avec lui, ce qui me faisait et rester à Paris,
oui.
Et en même temps, faire ce que j'aimais.
Voilà, garder ce lien avec le spectacle,
ce lien,
au fond,
le spectacle, voilà.
Qui est votre passion, qui vous a rassemblés tous les deux. Vous n'êtes pas connus sur scène, quand même.
Non, pas du tout.
On s'est connus chez TK.
Oui.
Max me dit...
Max Derieux, donc le père de Chantal,
oui.
Derieux,
voilà,
qui était
Max
le
Derieux,
grand patron de TK
déjà chez...
Directeur artistique.
J'étais chez TK déjà depuis au moins une dizaine d'années, quoi.
Ouais, ouais.
Et Max Derieux me dit, nous avons ce soir un cocktail... dans les salons de chez Deka pour Fernandel,
ouais.
Car il vient de sortir son disque des Lettres de mon moulin, de Daudet. Ouais. Alors, si tu veux venir, tu viens.
Et moi, mon père me dit, si tu veux me revoir avant 3 semaines, il faut venir ce soir, parce que je pars pour Alger 3 semaines à la télévision. Alors, j'y suis allée. Et puis voilà, tout est dit. Nous sommes là, 54 ans après.
On ne s'est pas quitté.
Alors, voilà. Je veux dire, c'est merveilleux de recevoir comme ça un couple d'artistes. Ça ne m'est pas arrivé si souvent. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Je pense à Guy Dumazer et René Doria, par exemple.
Mais,
voilà, un couple d'artistes qui se sont suivis toute la vie sur scène et parfois même rencontrés dans certains disques. Hein. On trouve vos deux noms, par exemple, sur le disque des Trois Valses avec Suzy Delair. Hein,
voilà. Mais enfin, c'était tout à fait occasionnel.
Chantal Derieux, c'est un petit rôle parce que vous n'êtes pas chanteuse. Vous êtes
pas du tout.
Comédienne.
Absolument
hein.
pas.
Robert Piquet, vous êtes chanteur, fantaisiste, comédien.
Comédien, mais chanteur au départ et danseur aussi.
Et danseur aussi. Voilà toute l'histoire merveilleuse que je voudrais qu'on évoque ce matin. Alors, je précise aux auditeurs, doublement merci parce que vous êtes venu de Troyes où vous vivez aujourd'hui, mais vous avez été parisien très longtemps, jusqu'à il y a
50 ans.
Voilà, 50
toute
ans.
La vie sur la butte Montmartre.
Voilà. Donc, on est heureux de vous retrouver là dans nos beaux studios de la radio.
Non, c'est pour ça que j'ai été très touché.
On va commencer par un petit retour en arrière dans une toute autre ville que Paris.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école.
Voilà, le nom a été dit. Toulouse, Robert Piquet, c'est
une ville importante. Je suis né à Toulouse.
Vous êtes né à Toulouse.
Voilà.
Vous avez gardé un attachement.
Beaucoup.
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 C'est une ville qui vous a marqué.
Énormément.
D'ailleurs, j'ai vu, il vous reste un tout petit peu d'accent.
Une petite pointe d'accent qui reste encore charmante, mais Toulouse, pour moi, c'est première ville de France.
Ah, carrément, oui.
Ah, voilà.
Et c'est une ville de chanteurs, d'ailleurs. Le nombre de chanteurs originaires de Toulouse est assez extraordinaire, notamment de chanteurs d'opéra.
Hein. Exactement. Il y avait le papa de
Claude Nougaro,
Pierre Nougaro, qui chantait au Capitole de Toulouse.
Et Maddy Mesplé, et beaucoup d'autres. Toulouse, vous y avez donc grandi, mais alors comment est-ce que vous êtes monté à Paris et comment est-ce que vous avez décidé de devenir artiste, Robert
Alors Piquet? Voilà, je faisais des imitations de Fernandel.
Mais à quel âge?
À 18 ans.
Ah voilà, d'accord.
Je travaillais avec mon père, qui avait une entreprise de peinture à Toulouse, et j'avais qu'une passion, c'était Fernandel et Traîner.
C'est de là, précisément.
Ah, c'est de là.
D'accord.
Et Fernandel m'attirait beaucoup, etc. Donc j'ai fait des imitations de Fernandel.
Tiens, écoutez une seconde, écoutez.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie.
C'est ça, hein? Oui.
Alors je chantais Félicie, je chantais Barnabé, je chantais Ignace, je chantais Elle a tout ça. Et moi, je n'imite pas là.
Non,
parce
non,
que je
non.
ne sais plus l'imiter d'ailleurs. Mais elle a tout ça, et moi,
je l'ai pas.
Les trucs ici, les machins, là, la fessière du grand café. Bon, voilà. On a retrouvé une affiche d'ailleurs de cette époque. Je m'appelais Robert Mondel.
Pourquoi?
Un peu pour la famille.
Ah voilà.
Pour pas
leur faire
rêver des entreprises un peu partout, donc piqué. Alors on avait pris Mondel. Mondel, c'était Raymond, Mont, et puis Mondel, c'était la famille. Donc Robert Mondel. Et on a retrouvé une affiche où il y avait marqué Robert Mondel, le mieux que Fernandel. C'était une drôlerie. Alors, le maîtreur de mon père, qui était un garçon qui adorait le music-hall, m'a dit un jour, écoute, voilà, j'ai le cinéma Plaza pendant 7 jours. Je voudrais que l'on fasse une série de représentations. Alors, j'aimerais que tu en fasses partie. Là, j'ai dit, mais en imitant Fernandel. Oui. Il me dit, ça n'a pas d'importance, au contraire, etc. Et j'ai demandé à Bruno Cocatrix si on pouvait avoir Jacques Pils. Car Bruno était l'impresario de Jacques Pils.
De Jacques Pils.
Donc, nous avons fait ces 7 jours. Le dernier jour, mon père, qui venait souvent quand même me voir au Plaza, voit Cocatrix et lui dit, avant de partir, si vous voulez venir manger un cassoulet à la maison, ça nous fera plaisir avec Pils, etc. Ils ont accepté, ils sont venus, la soirée s'est bien passée, bien arrosée, et au moment de partir, Bruno me dit, ah, écoute, Robert, si tu veux monter à Paris, viens me voir, je suis rue Bergère et mon bureau est cité Bergère. Et 2 jours après, j'étais dans le bureau de Cocatrix.
Ah oui, vous n'avez pas hésité, là. Vous avez pris votre billet de train tout de suite.
Ma mère a été désolée, mais enfin, je veux dire...
Il y a eu une grande scène des parents éplorés et du fils qui s'en va.
Un peu maman. Donc, je suis arrivé chez Cocatrix. En me voyant, il m'a fait... Ah, qu'est-ce que je vais faire de vous. Et il me dit, écoutez, il faut que vous appreniez votre métier. Les imitations de Fernandel à Paris, ça ne colle pas. Alors, je monte une opérette à l'Alhambra, avec Bourville, avec André Claveau, avec Gisèle Pascal. Il s'appelle La Bonne Hôtesse.
La Bonne Hôtesse.
Je vous engage là. On va vous donner un petit rôle et vous apprendrez votre métier. Et j'ai commencé là.
Vous avez commencé là et vous avez enchaîné l'année suivante avec le Maharaja, toujours avec Bourville.
Avec Bourville, toujours, et Bruno Cocatrix et Jean-Jacques Vital.
Voilà, parce que c'est l'époque où Cocatrix donc montait beaucoup d'opérettes.
Exactement.
Dans ce théâtre de l'Alhambra, hein, qui était vraiment...
Ah, c'était très grand.
C'était à Cocatrix, enfin c'était sa maison un peu. Il
faisait du tout.
Non ?
Pas du tout, mais il faisait parce que, bon, Bourville déjà attirait beaucoup de monde.
Oui.
C'était les débuts de Bourville également.
C'est le début de sa grande gloire.
Ah oui, c'était les crayons encore.
Oui.
Donc, on a fait le Maharaja avec Bourville. Et l'année suivante, il m'a dit, bon, maintenant, je monte une opérette avec Montand et Tchérina, qui s'appelle Le Chevalier Bayard. Eh bien, on te donne des petits rôles, etc. Donc, j'ai eu des petits rôles un peu plus importants d'opérette en opérette. Et après, Cocatrix me dit, je monte une opérette à Bobino avec les Peter Sisters et Jean Richard. Et là, tu vas avoir ton premier rôle de jeune premier.
Voilà, jeune premier, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez quand même aussi un style de jeune premier.
Ah mais oui, mais bon, écoutez, je ne veux rien dire, on ne voit pas. Mais j'étais jeune premier, physiquement. Intérieurement, si j'ai imité Fernandez, c'est que j'essayais d'avoir...
Le tempérament du fantaisiste.
Voilà. Et c'est là où j'ai rencontré Guy Lafarge.
Voilà, alors on va parler de Guy Lafarge après, mais on va peut-être d'abord écouter. Alors, un disque de toute cette époque qui suit, où vous êtes devenu aussi chanteur, vous avez gravé pas mal de chansons. On va écouter peut-être ce joli succès de mon temps, La Chansonnette,
oui.
Repris par vous. Ça vous va ?
Oh, très bien.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette, après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrête. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon. Cueilli par un flonflon, un tétard en blouson d'un franc de violette, va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon, et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur, la chansonnette. Et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
La chansonnette des regrettés Jean-André Jacques et Philippe Gérard, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici. Chantal Derieux, quand tous ces premiers disques de votre futur mari, Robert Piquet, sont sortis chez Decca, vous étiez donc la fille du directeur artistique qui les produisait. Vous n'avez pas jeté un petit œil dessus ? Vous n'êtes pas dit, tiens, il a du talent celui-là ?
Si,
j'aimerais bien le connaître. Ah oui, quand même.
Oui, tout à fait.
Ah oui, vous l'aviez repéré aussi. Ah,
oh, absolument. D'ailleurs, le jour où je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est le jour J.
C'est le jour J. Parce qu'il faut dire, alors on va revenir ensuite à Guy Lafarge, compositeur avec qui vous avez beaucoup travaillé après Cocatrix. Mais donc, vous avez au fond mené de pair la carrière de l'opérette et celle de la chanson, du musical.
Exactement.
Et c'est comme ça que vous êtes donc, en 1953, présenté au fameux concours de Deauville.
Voilà, c'est Lafarge qui m'avait proposé ça.
Voilà.
Parce que Guy Lafarge était venu me voir dans l'opérette des Trois Faibles Femmes.
Grand succès, les Trois Faibles Femmes.
Oh.
Énorme.
Ouais.
Voilà, avec ces Peter Sisters qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était assez extraordinaire. Donc Guy Lafarge, je vous avais vu là.
Donc il est venu voir les Trois Faibles Femmes. Ouais. Il est venu donc me voir et m'a dit, je monte une opérette à l'européen avec Jean Rigaud, Lucie Dolène.
Alors, il faut dire que Jean Rigaud était un très célèbre chansonnier.
Oh là là, enfin... un peu grivois, n'est-ce pas ? Mais enfin... très drôle, très amusant.
Lucie Dolène, j'ai eu le plaisir de la recevoir ici même. Elle nous écoute peut-être, on la salue.
Ah ben bien sûr, bien sûr. Ça,
on va en reparler d'ailleurs dans un instant. Et Guy Lafarge, je rappelle aussi pour les auditeurs qui ne savent pas forcément que c'était un des derniers vrais grands compositeurs d'opérette dans la tradition un peu raffinée de messager et de la musique française.
Et qui a écrit la scène.
Et donc Guy Lafarge vous a repéré dans les trois faibles femmes, vous a fait jouer dans Schnock.
Voilà, là avec Jean Rigaud et Lucie Dolène. Et dans Schnock... il me dit, voilà, je suis au jury du concours de Deauville, j'aimerais que tu défendes une chanson de mes amis Georges Durban et Dominique Padot. Ce n'est pas de chanson de moi, puisque je suis au jury, je ne peux pas voir une chanson.
Mais vous avez pris en amitié, alors, vous étiez un peu pris sous sa coupe.
Il me considérait comme Mais mon deuxième fils.
Ah oui, très bien.
Ah oui, à ce point-là.
Et donc, il vous a poussé à participer au concours de Deauville.
Qui s'est terminé dans le jury avec un pugilat pour attribuer le premier prix. Finalement, c'est Nicole Louvier qui l'a emporté. Et j'ai pris le prix Charles Trenet, qui est très drôle parce que pour moi, c'était le début Fernandel Trenet. Et
le je prix prends Charles Trenet.
Le prix Charles Trenet. Donc, on revient sur Max Derieux et Deka.
Donc, ils étaient là.
Oui, il était au jury.
Voilà.
Il y avait au jury Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Il y avait Jean-Louis Barrault et
Madeleine Renaud.
Il y avait Villemetz. Il y avait Henri Betty.
Ah oui, il y... pas mal. Enfin, le gratin.
C'était, oui, voilà.
Et vous avez chanté sur la scène de l'Olympia.
Oui, en 54.
Oui.
Oui, c'est parce
avec
que...
Lionel Hampton en deuxième partie.
Oui, pas facile.
Oui.
On commençait déjà à casser les fauteuils de l'Olympia.
Oui.
Avec. Enfin, j'avais 5 chansons à chanter, oui. Donc une qui était la chanson de Auteuil, qui avait gagné à Deauville,
oui.
Et j'avais 4 chansons de traînée. J'avais « Où sont-ils donc ?»,« Tous ces pays », etc. J'avais 4 chansons de traînée, puisque c'était le prix Charles Traînée.
Oui.
Et je suis passé à l'Olympia un mois.
Extraordinaire.
Mais évidemment, oui. Avec un public qui venait.
Qui attendait Lionel Hampton.
Pas facile.
C'était pas facile.
Comme l'on dit, je m'en sortais. Voilà.
Et donc Max Derieux vous a engagé chez Deka.
Chez Deka.
Et c'est comme ça que vous avez enregistré tous ces disques.
Tous ces disques chez Deka.
On en a quelques-uns sous la main, là. Ce sont des 45 tours avec beaucoup de chansons, des reprises de chansons anciennes, des chansons nouvelles.
Oui, tout à fait.
Le Carrosse, par exemple.
Le Carrosse, hein, oui.
Et beaucoup de Notre Concerto.
Exactement.
Toutes ces chansons que vous avez enregistrées pendant des années chez Deka. Et puis, avec Guy Lafarge, il faut dire aussi, vous avez alors monté... une œuvre très très importante sur laquelle je voudrais bien qu'on revienne, mais on va peut-être commencer par y revenir en musique.
La colle au pinceau, colle au pinceau, faut que ça colle, car si ça ne collera, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un saut, tu n'en as qu'un saut, tu n'en as qu'un saut, mais pas de pinceau. Coller des affiches, c'est un métier de riche, car il ne faut pas, ne faut pas, ne faut pas, ne faut pas être chiche. Mais de la farine, jamais de l'usine, car nous on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas les cuistots. Mais si tu en mets trop, c'est de la pâte à gâteau.
Si t'en mets pas assez, c'est de la pâte à beignet.
Et si tu vois trop grand, c'est de la pâte à croissant.
Si tu vois trop petit, de la pâte à spaghetti.
En somme, il faut ce qu'il faut.
Et pas assez ni trop.
Que ça colle pas au saut, mais que ça colle au pinceau.
La colle au pinceau, colle au pinceau.
Faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un saut, tu n'auras qu'un saut. Tu n'auras qu'un saut et pas de pinceau. Les mots qu'on imprime sont toujours sublimes. Oh non, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas de la frime. Mais les mots s'envolent, il faut de la colle.
Ou s'il n'y est pas, n'y est pas, n'y est pas, n'y est pas les mots.
Car à peine décollé, la fichette envolée.
Et tout ce qu'il y a dessus, c'est perdu, c'est fichu.
Le papier va par terre et les paroles en l'air.
Tout ce qui était promis, c'est tombé dans l'oubli.
Décollé, déchiré,
piétiné, balayé, tout ça pour des grumeaux.
Dans la colle au pinceau, la colle au pinceau, colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, le monde s'écroulera. La colle au pinceau, c'est un symbole. C'est comme un flambeau, c'est comme un rameau, c'est comme un drapeau. La colle au pinceau, y'a rien de plus beau que la colle, que la colle, que la colle, que la colle, que la colle au pinceau. La colle au pinceau, au pinceau.
Les Frères Jacques en 1956 dans La Belle Arabelle. Robert Piquet, vous vous rappelez cette Belle Arabelle. Je pense aussi à Paul Touraine qui nous écoute parfois, même s'il vit aujourd'hui au Canada. Mais Les Frères Jacques, c'est évidemment un moment merveilleux de la chanson française. Et ils ont été avec vous dans cette opérette qui a été un grand succès, hein, La Belle Arabelle.
Ah oui, on a joué 2 ans.
2 ans à la Porte Saint-Martin à Paris. Voilà. Alors, un rassemblement d'ailleurs assez extraordinaire, parce que la musique est de Guy Lafarge, mais il y avait aussi Francis Blanche parmi les auteurs des paroles de l'opérette.
Il avait écrit le livret.
Le livret complet, carrément.
Voilà.
Oui, voilà, oui.
Il avait écrit même pour son père, qui était dans le dernier acte.
Qui était aussi sur scène, Louis Blanche.
Louis Blanche.
Et alors, les frères Jacques, donc, qui jouaient 4 mariniers,
c'est ça ? 4 mariniers.
Voilà.
Sur une péniche qui s'appelait La Belle Arabelle.
La Belle Arabelle. Voilà. Et alors, donc, là, arrivait une jeune fille.
Cette jeune fille qui veut se suicider, qui tombe à l'eau, à proximité de la péniche. Il la sauve.
Alors, elle était jouée par Lucie Dolène.
Voilà.
Toujours, on retrouve Lucie Dolène.
Et ils tombent tous les 4 amoureux de Lucie Dolène.
De Lucie Dolène.
Mais comme il y a un jeune premier qui est là, n'est-ce pas, qui est
c'est
un ami des frères Jacques, et qui est... quelqu'un qui vend des petites boîtes à musique. C'est pour ça qu'on en revient après aux boîtes à musique.
La chanson Les boîtes à musique qui est tirée de cette opérette.
Exactement. Hein. Et bien sûr, c'est plutôt moi qu'elle choisit plutôt que les frères Jacques. Tout est là. Après, il y a le duo dans la barque. Avec elle, au fil de l'eau, bien des rêves sont nés. Voilà, que l'on chantait avec Lucie.
Et je le dis aux auditeurs, parce que moi, c'est grâce à ce duo que je vous ai rencontré, si j'ose dire, Robert Piquet, parce que j'ai la partition chez moi. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, Robert Piquet, qu'est-ce qu'il est devenu ? Lucie Dolène, je le savais. Et puis voilà, je vous ai retrouvé par le biais d'une compagnie de théâtre. Et vous étiez effectivement donc encore, je le redis, quand même un jeune premier, seulement un fantaisiste.
Tout à fait. Mais j'étais un jeune premier, mais il y avait toujours quand même ce fond de fantaisie que j'apportais avec les frères Jacques.
Vous dansiez un peu ?
Oh.
Alors, donc, Robert Derieux, j'imagine, Chantal Derieux, est venu parce que vous avez déjà comme artiste dans sa maison de disques à ce moment-là. Et vous êtes allé avec lui donc, à la Porte Saint-Martin.
Je suis allé, oui. Et alors, à ce moment-là, j'aimais beaucoup le théâtre. J'étais tournée uniquement vers le théâtre.
Vous étiez déjà lancée vous-même
métier. Ah oui, tout à fait. Alors, j'avais commencé, j'aimais ça par-dessus tout. Et l'opérette, bon, j'ai trouvé ça gentil, mais c'est tout. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Voilà. Robert.
Vous ne l'avez pas vu.
Je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire que
vous n'avez pas fait attention à lui.
Voilà.
Je suis passé inaperçu.
Ah, carrément. Voilà. Bon, heureusement, ça s'est bien rattrapé.
Après, ça s'est bien.
Alors, je voudrais peut-être, avant de revenir à la suite de la carrière de Robert Piquet, qu'on fasse un petit détour justement par Max Derieux. J'ai retrouvé un document assez passionnant où il parle de sa vie dans nos archives de la radio. Oui. On va juste écouter le début parce qu'il y a d'abord la présentation par le présentateur de l'époque, M. Euset, de Max Derieux. Et il résume en quelques mots tout ce qu'a fait Max Derieux, ce qui est quelque chose de vraiment impressionnant.
Max Derieux, vous êtes à l'heure actuelle le directeur d'une très importante maison de disques. Mais votre vie bien remplie a toujours été très active. Elle ne se borne pas à ce rôle, que vous assumez d'ailleurs avec un très rare bonheur et une grande compétence. Vous avez été, ou mieux, vous êtes, tour à tour, pensionnaire de l'Odéon, metteur en scène de cinéma, metteur en scène à l'opéra, directeur de scène à l'opéra comique, ténor en renom dans l'opérette classique, entrepreneur de spectacle en France et en Amérique, conférencier, animateur ou interprète à la radio et à la télévision. Il s'agit donc bien d'une réussite à branches multiples. Voulez-vous que nous en détachions quelques rameaux, ou plutôt, permets-moi de te dire tu, parce que je suis vraiment gêné avec ce vous.
Oui, ça, j'avoue
trop
que
conformiste.
Je te connais depuis quelques années, n'en fixons pas les dates. Mais enfin, le fait que tu me dises vous me gêne un peu, n'est-ce pas ? Ça me rappelle cette chanson d'un chansonnier qui disait « Tu me dis putu, Juliette ». Non, en effet. Alors, adoptons, n'est-ce pas ?
Adoptons. Bon.
Alors, nous faisons à la ville.
Veux-tu nous parler de tes débuts ?
Mes débuts.
Avais-tu une vocation précise au départ ?
Oui, certainement. Je n'avais plus la vocation du théâtre que des mathématiques. Car j'avoue que, à ces classes, je dormais largement.
Très largement.
Oh, très largement. Vraiment très étalé. Et je pensais au théâtre. Mon père, d'ailleurs, qui était tapissier décorateur, s'y intéressait lui aussi. Il y allait à peu près 3 ou 4 fois par semaine et il m'emmenait à l'Olympia. À l'Olympia où il fournissait les meubles, n'est-ce pas ?
Mais l'Olympia était déjà un musical à ce
moment-là ? Oui, c'était un musical. C'était un musical où on jouait la revue. Et mon père, je te dis donc, fournissait les meubles qu'on lui rendait d'ailleurs cassés. Toujours.
Pourquoi ? Il y avait déjà des fans à cette époque-là ? Ils cassaient les fauteuils ?
Non, ils cassaient tout. Et mon père était de même très content parce que, n'est-ce pas, il disait « Moi, j'ai mes entrées gratuites à l'Olympia. »
J'habite près de l'école de médecine, au premier, tout comme un bourgeois. Une demeure magnifique, divine, à l'hôtel du numéro 3.
À l'hôtel numéro 3.
Il y a pour que tous aient leurs aises, des lits de fer et des lits en bois, et de toutes les sortes de punaises, à l'hôtel du numéro 3.
À l'hôtel numéro 3.
Les draps sont grands comme des serviettes, il n'y a qu'un seul modèle, je crois. Et c'est le chien qui lave les assiettes à l'hôtel du numéro 3.
À l'hôtel du numéro 3.
une douce fraternité règne. Les voisins y sont très courtois et nous avons tous le même peigne. À l'hôtel du numéro 3,
à l'hôtel du numéro 3.
Comme c'est pas de l'or que notre bourse s'enferme et que nous sommes souvent aux abois, y a plus personne la veille du terme à l'hôtel du numéro 3.
À l'hôtel du numéro 3.
À l'hôtel du numéro 3, c'est une fameuse chanson de Xanroff. Là, Max Derieux, en 1949, chantait lui-même cette chanson. Vous avez l'air très contents tous les deux d'entendre ce document. Robert Piquet.
Ouais.
Oui, il a adoré ce répertoire. Ça l'a beaucoup amusé.
Mais il chantait bien, hein.
Ah, il avait une petite voix, mais jolie voix de ténor.
Oui, oui. Et puis il adorait imiter Fraxone, le fameux Fraxone. Il y a un disque de Fraxone, je ne sais plus le titre. Et puis il avait enregistré également un air de Ta Bouche.
Oui, on va le retrouver tout de suite dans Ta Bouche, d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui était assez d'ailleurs frappant, c'est que quand on voit effectivement tout ce qu'a fait Max Derieux, et notamment, par exemple, il a été un des premiers à faire vraiment des mises en scène à l'opéra comique et à l'opéra, à une époque où ça ne se faisait pas beaucoup.
Et bien justement, oui, il faisait bouger les cœurs. C'est vraiment le premier qui a fait bouger les chœurs qui, en principe, étaient en scène statiques.
C'est ça.
Et qui chantaient les airs comme ça. Et là, mon père les a fait vivre. Alors, ça a été, évidemment, pour eux même une révolution. Parce que les choristes n'avaient pas l'habitude de bouger et ils étaient très contents de leur sort comme ça.
Il a été aussi un des premiers à pratiquer le playback, je crois, à la télévision.
Alors, justement, tout à l'heure, je vous disais qu'il était allé à Alger. Et à Alger, il a rencontré, dans un cabaret, Loussier.
Jacques Loussier. Qu'on connaît par son fameux playback.
Voilà, justement. Et Jacques Loussier était dans ce cabaret, il était militaire à ce moment-là, et donc il jouait tout ce qu'on connaît de lui. Et mon père a été emballé, et comme en même temps, il était directeur artistique chez Decca, il lui a dit, écoute, dès que ton service est fini, tu viens à Paris, et on te prend. Et c'est mon père qui lui a trouvé le titre Playback.
Playback, voilà.
D'ailleurs, Jacques Loussier a toujours dit.
Alors, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est pour ça qu'il accompagne certains disques de Robert Piquet, je vois.
Jacques Loussier. Et là, c'était Jacques Loussier qui avait dirigé cet enregistrement-là.
Voilà. Mais alors, cet homme extraordinairement donc, curieux de tout, un esprit très, très vif, très inventif, Max Derieux, finalement donc, est devenu grand directeur artistique chez Decca. On a l'impression que malgré tout, il a toujours eu envie de chanter, puisque lui-même s'est fait chanter dans un certain nombre de disques qu'il a produits.
Hein. Ah oui, oui, ça a été...
C'était sa vraie passion.
Et son regret, évidemment, de n'avoir pas pu atteindre, parce que sa voix était trop légère, des rôles qu'il envisageait.
Il faut dire qu'il s'appelait en réalité Max-Ernest Gauthier, hein, c'est votre nom de jeune fille, Gauthier, Chantal Derieux. Et que, malheureusement, par contre, Max Derieux, en fait, est mort assez jeune, à 62 ans, d'un accident de voiture.
Dans un accident de voiture, il était allé à Fréjus pour acheter une propriété que vendait Poulenc, avec lequel il était
lié à Francis Poulenc,
lié avec Francis Poulenc et Denise Duval, qu'ils avaient monté, mis en scène les mamelles de Tirésias. C'était dans les hauteurs de Fréjus et il a raté un virage.
Et c'est ainsi que s'est donc achevé une carrière dont on a peine à imaginer tout ce qu'il aurait pu faire encore, tellement il en a fait jusque-là.
À 60 ans.
Et notamment tous ces disques qui ont été réédités ces dernières années, d'ailleurs chez Universal, heureusement, mais qui viennent du fond des cas, tous ces disques d'opérette, avec Les Trois Valses, avec Suzy Delair, Ignace avec Fernandel, L'Auberge du Cheval Blanc et beaucoup d'autres. Tout ça, c'était les productions Max Derieux.
Absolument. Ah oui, oui. Là, il a été très, très heureux. Mais évidemment, il aimait le changement. C'est-à-dire que il entreprenait, il allait au bout de ça, mais quand il était allé au bout, il fallait faire autre chose.
Voilà. Il vous a encouragé dans votre destin de comédienne?
Non, pas du tout. Ni encouragé, ni aidé. Hein.
Ah bon?
Rien, il m'a dit, moi je me suis débrouillée tout seule, tu en feras autant. Voilà.
Ah bon.
Ah oui, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus gênant, parce qu'on pense que quand on a quelqu'un de connu, comme son père, on se dit, elle est aidée. Or, je ne l'étais pas.
Il vous intimidait, Max Derieux, Robert Piquet, ou comment ça s'est...
Non, pas du tout. On était tellement près de lui tout de suite.
Moi, en revanche, il m'a beaucoup intimidé.
Ah bon, voilà, c'est la fille.
Ah, mais c'est pas la même chose.
Énormément intimidé.
On va le retrouver tout de suite, justement, dans Ta Bouche de Maurice Yvain. Alors là, il est le producteur du disque, mais c'est aussi lui qui chante avec Fanélie Révoil et quelques autres, le quatuor du Pas de Vis.
Puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation,
puisqu'un heureux hasard va nous permettre de rentrer tous quatre en relation.
Il serait opportun, je crois, peut-être qu'à nouveau nous nous présentations.
Il serait opportun, je crois, peut-être qu'à nouveau nous nous présentations.
Le moment, en effet, me semble très propice.
Le moment, en effet, me semble très propice.
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 Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils et vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils, vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas de vis. Vous connaissiez mon fils, vous connaissiez Miss, mais pas Madame du pas du pas du pas du pas de vis.
Charmé, vraiment, Madame, de vous voir. Faisons semblant de ne rien savoir. Dans le monde, ce qu'il vous faut avaler, de faux ménages seulement collés. Vous avez un chapeau qui est un vrai délice.
N'est-ce pas qu'il est gentil? Il sort de chez les Whis.
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 Chez les Whis. Chez les Whis. Chez les Whis.
Sûrement c'est immondice.
D'après tous les indices.
Dans ces magasins du 680, du 690.
Sûrement c'est immondice.
D'après tous les indices. Dans ces magasins du 680, du 690. Sûrement c'est immondice.
C'est vraiment d'animer. Il se chapeaute chez nous. Il faut le dire en tout cas. Il faut le dire en tout cas. Il se chapeaute chez nous. Il faut le dire en tout cas. C'est un artiste que c'est l'indice.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer à Paris.
Mais comme l'heureux hasard encore peut-être nous fera rencontrer à Paris.
Madame du pas de vis, veuillez permettre que je vous présente mon mari.
Nous serons ravis autant qu'on peut l'être de connaître enfin votre mari.
Elle n'a vraiment pas le trac de me servir mon truc.
Allons, n'ayons pas le trac et servons-lui son truc. Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc.
Ayons duc. Ayons duc.
Ayons duc. Ayons duc. Culot, voici le duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Ayez du culot, duc. Montrez-leur votre éducation du culot. Duc, du culot, duc. Songez qu'on vous reluque. Je vous présente.
Enchantez-moi, je suis le duc. Mais c'est qu'on a craqué. On se voit pas que Charmé, vraiment, cher duc de vous voir. Faisons semblant de ne rien savoir. Dans le monde, ce qu'il vous faut avaler, de faux ménages seulement collés.
De mon truc à son tour, il n'a pas l'air complice.
De son truc à leur tour, ils n'ont pas l'air complice.
De mon truc,
de ton truc,
de mon truc,
de ton truc,
de mon truc, de mon truc,
de mon truc,
de mon truc.
Si vous ne croyez
pas
que c'est madame,
madame du pas,
madame du pas,
madame du
pas, du pas, du pas, du pas, du pas, je ne crois pas, pas du pas, je n'y crois pas, pas du pas, 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 du pas.
Ah, nous avons un point commun avec Robert Picquet, c'est que nous sommes deux fans de Maurice Yvain,
oui.
Et notamment de cet extraordinaire
quatuor hein,
extrait de Ta bouche. Ici donc chanté par notamment Max Derieux avec Fanélie Révoil, Pierre Héral, Suzanne Lafaille. Vous l'avez chanté aussi, Robert Picquet, ce quatuor et
oui.
Cette œuvre.
Oh, c'était un enchantement de le faire.
Eh oui.
D'ailleurs, on jouait Ta bouche, mais on attendait ce moment-là.
Ah oui.
Avec vraiment...
Impatience.
Et ce qui était drôle, c'est que tous les artistes qui n'étaient pas dans ce quatuor étaient en coulisses pour nous voir chanter le quatuor du pas de vis.
Chantal Derieux, après, vous nous avez dit ce regard un tout petit peu dédaigneux pour l'opérette quand vous faisiez du théâtre. Vous avez évolué, vous avez fini par aimer vraiment ce genre.
Ah, tout à fait.
Oui.
Heureusement,
fait.
D'ailleurs.
Oui, oui.
Heureusement, ça va aller mieux entre
quand même.
Ah oui, non, tout à fait. Alors, vraiment, je n'ai pas quitté mon amour pour le théâtre, mais je suis devenue également une inconditionnelle de l'opérette.
Une inconditionnelle de l'opérette. Ah, alors,
c'est tellement charmant, gai, entraînant, enfin, vraiment.
On pourrait évoquer peut-être rapidement après La Belle Arabelle, une œuvre alors très oubliée, Premier rendez-vous de Silviano.
Oui.
Vous avez joué, Robert Picquet, avec Raymond Souplex et Bernard Lavalette.
Exactement, on l'a joué à la Gaîté Lyrique.
À Gaîté Lyrique, avant la qu'elle ne ferme. De la Gaîté, bien sûr.
Voilà.
C'était une œuvre dont vous avez un bon souvenir.
Excellent.
Oui, excellent.
Excellent.
Charmant.
Chantal Derieux.
Ah oui, charmant, vraiment.
Ça a été repris à la télévision,
ah, oui.
Monté par Henri Spade.
Bien sûr.
Je ne jouais plus déjà le jeune premier. Je ne sais plus qui le jouait. Moi, j'avais repris le rôle de Lavalette.
Ouais.
Et c'était Jacqueline Boyer qui jouait le rôle de la...
De la jeune
qui
fille.
Qui était la fille de Lucienne Boyer.
Sur scène pas...
Oui.
Oui, oui.
Ah oui.
Elle était charmante,
et je ne sais pas ce qu'elle est devenue après.
Oui.
Mais c'était elle qui avait joué dans Premier Rendez-vous, monté par Spade.
Eh bien, vous verrez dans les archives de notre émission, Jacqueline Boyer est venue ici il y a 2 ou 3 ans.
Elle a raconté
toute sa carrière. Voilà.
Alors, justement, elle doit se dire, si on l'a oubliée, non, là, moi, je ne l'ai pas oubliée, mais je veux dire que
oui,
je croyais maintenant, il y a tellement longtemps.
Je crois même qu'elle prépare tout un disque sur ses parents, Jacques Pils et Lucienne Boyer.
Bien sûr.
Robert Piquet, alors, à un moment donné, vous avez quand même... donner un petit tournant à votre carrière, c'est que vous êtes allé de plus en plus vers la mise en scène. Et peut-être une étape importante, là, ça a été Rose de Noël.
Oui, que j'ai monté
de France
au Théâtre du Châtelet.
Qui avait été donc d'abord créé au Châtelet une première fois par...
André Dassary.
Et Lehmann, enfin, le directeur.
Oui, Lehmann, André Dassary et Nicole Broissin, qui faisait ses débuts.
Oui.
Qui faisait ses débuts dans l'opérette. Ils sont restés 2-3 ans au Châtelet. Mais après... Il y a été un long moment sans que l'opérette se joue. Puis un jour, c'est M. Jean Baucher qui a pris la direction du théâtre
du Châtelet.
Et en accord avec Maurice Lehmann, qui était toujours là, mais enfin, il ne pouvait plus faire de mise en scène, il m'a demandé si je voulais reprendre la mise en scène de Maurice Lehmann.
Voilà.
Alors, comme je connaissais très bien Rose de Noël, parce que je le jouais en même temps,
ouais.
Je l'ai même joué avec Dassary, moi.
Ah oui, le créateur.
Oui, on l'a joué à Bordeaux.
Et donc là, vous avez fait la mise en scène pour toute la tournée, la reprise et la tournée.
Voilà, et Chantal jouait dedans, dans Rose de Noël, elle jouait
l'impératrice
Sissi.
Ah, quand même.
Il y avait un rôle
c'est
de comédie. Ah oui, c'était tout à fait honorifique.
Les costumes étaient beaux.
Oh, enfin,
digne
le
de
costume,
Sissi.
Oui. Non,
très joli.
C'était un très joli rôle.
Et c'est André Jobin qui avait repris le rôle de Dassary.
Voilà. Et c'est ça qui vous a donné vraiment le goût de la mise en scène, parce que vous en avez fait beaucoup par la suite.
Ah ben oui, j'ai fait beaucoup de mise en scène avec le couple Marcel Merquès et Paulette
Merval.
Donc on a fait Violettes Impériales, on a fait Tsardas, on a fait Douchka, et on faisait une tournée derrière.
Voilà.
Moi, j'ai fait de la mise en scène parce que ça me plaisait beaucoup, mais c'était quand même très fatigant. Parce que quand on joue un rôle comme l'auberge,
oui.
Et que vous vous levez le matin à 7h30 pour travailler avec les électriciens, avec les machinistes, pour faire tous les éclairages le matin. Donc, c'était quand même très fatigant. Mais enfin...
Mais vous avez également, même par la suite, monté des opérettes plus classiques, hein, comme La Mascotte,
exactement.
Fifi, etc.
Tout à fait.
Voilà.
Les Cloches de Corneville.
Les Cloches de Corneville.
Ah, oui.
Et donc même Madame Butterfly, je crois.
Oui, Madame Butterfly.
Ah, et de l'opéra
voilà,
également.
Voilà. C'est très bien, vous voyez, je ne m'en souvenais plus.
Alors, on va rester dans le registre de l'opérette avec encore une chanson de Maurice Yvain, chantée par vous, cette fois Robert Piquet, c'est Pas sur la bouche, que vous avez joué en intégralité ou seulement enregistré cette chanson?
J'ai joué Pas sur la bouche.
Vous avez joué Pas sur la
bouche. De toute façon,
oui.
Mais je ne jouais pas ce rôle-là,
oui.
Je jouais le rôle du jeune premier.
Oui.
Bon. Mais j'adorais cet air-là et j'ai voulu l'enregistrer et c'est Max Derieux qui me l'a fait enregistrer.
Un baiser, pas sur la bouche. Un baiser, ça m'effarouche. Pas sur la bouche, ça m'effarouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour embrasser. Un baiser, pas sur la bouche. Un baiser. Je veux pas qu'on touche, pas sur la bouche. Je veux bien ailleurs. Un baiser. Il n'y a rien de meilleur. Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant, moi je le trouve dégoûtant. Non, je ne suis pas pudibond, mais je ne trouve pas ça bon, et ça me fait faire un bond.
jamais aucune femme n'a pu baiser un femme. Ma bouche a d'autres emplois, je la garde pour moi. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, ça m'effarouche. Pas sur la bouche, ça m'effarouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour embrasser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, je veux pas qu'on touche. Pas sur la bouche, je veux bien ailleurs. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, il n'y a rien de meilleur.
Voilà, c'était donc à nouveau Maurice Yvain, chanté par Robert Piquet dans cette opérette « Pas sur la bouche », ta bouche, pas sur la bouche, bouche à bouche même.
Exactement. Je crois que
c'était la spécialité de Maurice Yvain. On ne peut pas malheureusement parler de tout Robert Piquet, Chantal Derieux, mais il faut quand même qu'on évoque encore un ou deux points qui me paraissent très importants. D'abord, revenons à Guy Lafarge un instant.
Oui.
Ce grand musicien dont vous avez été proche.
Très proche.
Toute sa vie. Et vous avez repris alors une œuvre qu'on connaît peu, mais que j'avais diffusée à la radio, très jolie adaptation du Chapeau de paille d'Italie qu'il avait faite de la pièce de la
Déchirée. Très jolie opérette.
Oui. Très jolie. Très belle. Ah, oui. Une partition qui convenait merveilleusement au chapeau.
Livret, oui.
Ah, ça marche très bien avec la pièce de la Déchirée.
Il chantait « C'est un chapeau, chapeau, chapeau de femme d'Italie, à la bouche fleurie. » C'était très, très italien.
Oui, oui. Vous l'avez monté pour la télévision
belge. Oui, oui,
voilà.
Et nous avons l'enregistrement.
Et puis, alors, ensuite, vous avez également monté un groupe, les Poivre et Sel, quatuor vocal, on peut dire.
Oui, bien sûr. Ouais. Tous les quatre, c'était vocal, c'était très joli.
Alors, parmi les quatre autres, donc Dominique Tirmont, chanteur d'opérette.
Oui, Georges Blanès,
oui.
Francis Linel.
Francis Linel et vous.
Et votre serviteur.
Voilà. Alors, c'était quoi les Poivre et Sel?
C'était quatre garçons qui avaient 55, 60 ans, qui commençaient à avoir des cheveux Poivre et Sel. Et le titre a été choisi, Poivre et Sel, par Rouzière,
oui.
Théâtre du Palais Royal.
Et alors, qu'est-ce que vous donniez sur scène comme répertoire
Que des opérettes.
Des opérettes aussi.
Que des opérettes,
sauf
une chanson pour nous présenter, qui s'appelait « Les Poivres et Sel », qui était de Fugain. Fugain nous avait écrit pour nous. Alors, on avait Amapola.
Ils étaient beaux, tous les quatre.
C'est le smoking, c'était pas l'habit. On avait le smoking avec le col très haut, vous savez, très élin. L'œillet à la boutonnière, le gilet, tous les quatre, vraiment... C'est vrai, c'était un grand moment pour nous.
Et puis, cette compagnie, alors plus récemment encore, avec qui vous avez travaillé, c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai retrouvé, si j'ose dire, sur Internet, c'était cette compagnie qui s'appelle Les Sept
de la Cité.
Ouais. Alors, ça s'est trouvé que Les Sept de la Cité, le directeur à ce moment-là était M. Ponceau.
Oui.
Et tous les ans, il montait un spectacle pour des œuvres, tout ça. Et il voulait monter une opérette, mais il ne savait pas quoi. Et c'est un ami à moi qui leur a dit « Mais prenez Robert Piquet, il va vous monter ça, venez. » Donc je suis allé chez Ponceau, on a discuté, et on a décidé de monter Dédé, qui a marché. Des gens étaient debout dans la salle de les voir faire autre chose qu'ils avaient l'habitude de faire.
Et vous avez, au fond, alors à ce moment-là, un peu transmis, on peut dire, ce répertoire
exactement.
À une nouvelle génération aussi.
Ben oui, exactement. Ouais. Et ils étaient tellement contents qu'on a refait, l'année suivante, on a fait « Pas sur la bouche
ouais. »,
et on a fait trois valses, voilà.
Et ben
après, avec Chantal, nous avons fait « Chant en poche », mais ce n'était pas la musique.
C'était pas avec la musique. Aujourd'hui, je le redis, vous vivez à Troyes, dans l'Aube.
Ouais.
Hein, vous avez quitté Paris depuis... Ça ne vous manque pas trop, l'air de la capitale?
Robert, si.
Ah, un peu.
Pas moi.
Pas vous,
non,
madame
pas
de Rieux.
Non,
ce qui me manque, c'est Montmartre, moi.
C'est pour
pas spécialement Paris, c'est Montmartre.
Voilà, parce qu'on va se quitter avec une chanson en parlant un peu de Paris, justement, qui est en fait l'histoire d'un type qui vit en province et qui regrette sa capitale.
Ben voilà.
Il y a un petit peu de ça.
Eh bien, c'est pour Chantal, alors.
En tout cas, vous êtes bienvenue ici si vous avez envie de revenir. Et puis,
merci infiniment. C'est très agréable.
Ça dépend de vous, mon cher Benoît.
Alors, on va s'y employer.
Voilà.
Et je vous dis à bientôt.
Merci.
Chantal Derieux. Merci. Merci, Robert Piquet.
Merci, Benoît.
Ici, les plaisirs sont minces et rares les distractions. N'est pas gaie la vie province, on ne rit pas beaucoup à Rion. Quel supplice de Tantale d'être loin de la capitale pour nous consoler. Pauvres exilés, nous ne pouvons qu'en parler. En parlant un peu de Paris, tout s'éclaire et tout sourit. La cité morose se métamorphose, les vieux murs semblent moins gris. On se figure revoir les Tuileries, la Madeleine et la place Clichy. Son air nous enivre, on se sent revivre en parlant un peu de Paris. Rue de la Paix, rue Royale, Maxime Fouquet et Prunier. C'est seule la vie provinciale qui peut vous faire apprécier. Ici quand 9h sonne, on ne rencontre plus personne. Pas de boîte de nuit, on en est réduit à causer jusqu'à minuit. En parlant un peu de Paris, tout s'éclaire et tout vous sourit. La cité morose se métamorphose, les vieux murs semblent moins gris. On se figure revoir les Tuileries, la Madeleine et la place Clichy. Son air nous enivre, on se sent revivre en parlant un peu de Paris.
Un grand succès d'Henri Gara qui était donc chanté ici par Robert Piquet, mon invité ce matin. Et les chansons de Robert Piquet, vous pouvez en retrouver quand même un certain nombre rééditées en CD au fil des anthologies. Si vous êtes collectionneur, il y a aussi bien sûr les 45 tours. Et puis, je vous signale également donc, toute cette collection d'opérettes dirigées par Max Derieux, dont on a beaucoup parlé, dans laquelle vous retrouvez aussi parfois Robert Piquet. Cette collection, elle, est rééditée donc, en CD chez Universal. Quant à Chantal Derieux, j'ajoute que les cinéphiles pourront aussi la retrouver dans Obsession de Jean Delannoy, Montparnasse 19 de Jean Becker ou encore Le dos au mur d'Edouard Molinaro. Une autre façon de retrouver donc mes deux invités que j'étais très très heureux de recevoir ce matin. Et ma joie est au comble parce qu'on finit en beauté avec le charmant, le beau Martin Péné qui me fait le plaisir d'être
rougir,
de
Benoît,
retour. Première fois de la saison d'ailleurs. Et tout naturellement, Martin, j'en avais dit juste un petit mot après les vacances parce que j'avais appris cette triste nouvelle. Comme tout le monde, vous avez voulu rendre hommage à la grande Yvette Giraud.
Oui, qui nous a quittés assez discrètement, il faut bien le dire, le 3 août dernier. Et étant donné sa longue carrière, je vais lui rendre hommage en deux chroniques. Et donc, on va dire un petit peu d'où elle vient, puisqu'elle est née à Paris en 1916. Elle a fait des études de commerce et d'anglais. Et après plusieurs postes de secrétariat, elle a été engagée en 1943 à Radio Paris comme secrétaire de Pierre Yégel, dont vous avez parlé, Benoît, dans une émission, qui était donc discothécaire et musicologue et animait plusieurs émissions musicales. Et Yvette avait pris l'habitude de chanter en travaillant et ses collègues l'ont encouragée à prendre des cours de chant. On arrive à la libération de Paris, elle devient speakerine à la radiodiffusion nationale, puis décide de se lancer dans la chanson. Donc sa carrière ne démarre finalement que sur le tard, à 28 ans. Et donc c'est un impresario qu'il a fait engager pour distraire d'abord les troupes anglaises en transit à Calais. Et pendant plusieurs semaines, elle chante sur les plages en français et en anglais. Elle enchaîne avec un contrat de 6 mois pour le théâtre aux armées américains. Ça se passe à Reims, dans un camp où elle chante chaque jour devant des milliers de soldats accompagnés par un orchestre militaire. Elle reprend tous les grands succès du moment parce qu'elle n'a pas encore de répertoire personnel. Elle rentre à Paris fin 45 et se produit dans un cabaret des Champs-Élysées. Et c'est là qu'elle est remarquée par le parolier Jacques Plante, qui est très séduit par sa belle voix grave qu'on va entendre dans un instant.
Style Marjane un peu.
Un petit peu. Mais bon, on va voir. Et donc elle passe une audition pour les disques Gramophone, c'est un label donc du groupe Pathé Marconi, où elle retrouve à la direction artistique, curieusement, un colonel anglais qu'elle avait connu l'année précédente. Et c'est lui qui l'engage pour 2 ans. Et elle enregistre en avril 1946 ses tout premiers disques avec des chansons dont les paroles sont signées Jacques Plante, Mademoiselle Hortensia, qui sera peut-être son plus grand succès de l'époque, et une adaptation du succès américain de Doris Day, Sentimental Journey.
Pour aller rejoindre mon idéal, aujourd'hui je veux m'offrir un petit voyage sentimental au pays des souvenirs. J'ai le cœur et l'âme d'un vagabond par un beau matin d'avril. Tant que le retour semble bon, après de longs jours d'exil. Voilà le train qui démarre, voilà que s'enfuit la gare. Déjà, chaque tour de roue m'a rapproché de mon clocher. Mon petit voyage sentimental par ces mille et cent détours me ramène à mon village natal où m'attendent mes amours. Je l'embrasserai près du banc de mousse qui vit notre baiser d'adieu. Sentirai-je encore une larme douce brouiller mes yeux? Pour aller rejoindre mon idéal, aujourd'hui je vais m'offrir un petit voyage sentimental au pays des souvenirs. J'ai le cœur et
j'adore ce voyage sentimental. Et la prononciation, hein, Martin Péné.
Là, on sent l'influence quand même.
Yvette Giraud.
Ouais, oui. On sent un peu l'influence américaine quand même à ce moment-là. Et donc, Yvette Giraud devient la chanteuse protégée de Jacques Plante, qui lui écrit toute une série de succès, le plus souvent mis en musique par Louis Guy. Ça commence par La danseuse et créole, Rêver de vous, Joue contre joue, un tango très langoureux. Et elle est rapidement adoptée par les auditeurs de la radio nationale pour sa voix, son charme et son élégance discrète. Et elle devient également une chanteuse à succès de Pathé Marconi. Et son contrat lui permet de choisir son chef d'orchestre. Alors, ce sera le plus souvent Marius Coste, qu'on a entendu là, et puis Albert Lasserie, un peu par la suite. Alors, pour ce qui est des scènes parisiennes, elle chante surtout au cabaret, mais elle entame aussi une tournée avec Francis Blanche qui la conduira en France, en Belgique et en Suisse. Et son répertoire d'alors est pour l'essentiel constitué de chansons douces, mais parfois elle aime y glisser quelques chansons à texte. Et en 1947, elle est ainsi la toute première interprète d'un jeune compositeur venu de Monaco qui se nomme Léo Ferré. Complètement inconnu hein, à ce moment-là. Et cette chanson, sur un texte de René Baer, s'intitule « La chambre ».
On m'a prêté 4 vieux murs pour y loger mes 4 membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent. sur des rayons les in-quartos des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots les grands crus de notre royaume, les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à la Rome. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en piles régulières, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Par la fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve, voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusion. Voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses, et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici les songes en rasade, le divan de Sherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en quatre secondes, décorateur sur champ d'azur, a fait de mes quatre vieux murs la plus belle chambre du monde.
Yvette Giraud dans La Chambre, sur une musique de Léo Ferré en 1947. Vous me confirmez, Martin Péné, donc c'est la première chanson commercialement enregistrée de Léo Ferré.
Oui, parce que lui-même n'enregistra que 3 ans plus tard. Hein, donc, entre-temps, il a été chanté par d'autres interprètes. Jacques Plante, donc, avec qui Yvette Giraud vit désormais, organise au mieux sa carrière. Fin 1947, c'est le début de sa renommée internationale, avec une tournée triomphale de 4 mois dans les grandes villes du Brésil. À son retour, elle passe en tête d'affiche à Bobino et fait une grande tournée française. Et en 48, elle repart au Liban et en Égypte. Et c'est là qu'elle croise les compagnons de la chanson et fait la connaissance de Marc Errant, le directeur musical du groupe, qui aura une grande importance dans sa vie quelques années plus tard. On aura l'occasion d'en reparler. Elle lance à ce moment-là de nouveaux succès, signé Jacques Plante, Tu te souviendras de moi, Maître Pierre, Ange ou Démon. Et après une tournée aux États-Unis en 1949, Yvette ramène un air populaire qui sera adapté encore par Jacques Plante sous le titre Maguet Pierre et Mélon Jupon. Elle est aussi une amie d'Edith Piaf qui aurait écrit son hymne à l'amour avec l'intention de lui en confier la création, mais l'aurait finalement gardé à cause de la mort de Marcel Cerdan qui, bien sûr, lui avait inspiré ce texte. Et Edith se rattrapera un an plus tard en lui confiant la primeur d'une autre chanson, Chante-moi. En 1950, Yvette Giraud continue à enchaîner les succès, Avoir un homme sous son toit, Aimer comme je t'aime ou Avril au Portugal, qui est une adaptation par Jacques Larue d'un succès portugais d'Amalia Rodrigues qui fera ainsi le tour du monde grâce à cette adaptation.
Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé sous un ciel où l'été s'attarde. Histoire d'amoureux, voyage aventureux, que pour mes jours heureux je garde. Un grand navire à quai, la foule débarquait, deux yeux sous des bouquets regarde. L'amour devait rôder, puisqu'on s'est regardé. Puis mon cœur s'est mis à chanter. Avril au Portugal, à deux c'est idéal. Là-bas si l'on est fou, le ciel est plus que vous. amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Le soir sous mes yeux clos, glissant au fil de l'eau.
Et c'était donc Avril au Portugal, Yvette Giraud, en 1950, Martin Pémé.
Oui, Yvette Giraud, donc, avec les Compagnons de la Chanson, fait un nouveau voyage en Amérique, à Québec et à New York, puis en France, une tournée de l'ABC. Elle obtient en 1951 le Grand Prix du disque pour La Province et mon cœur, dont elle partage la création avec Jacqueline François. Enfin, elle revendique la création d'une chanson de Charles Trenet, et non des moindres, puisqu'il s'agit de L'âme des poètes, qu'il a écrite lors d'une tournée à New York.
Il y a des gens qui revendiquent, il y a des débats passionnés sur ce genre de questions.
Elle l'a enregistrée en fait, au même moment, hein, puisque c'est l'éditeur Raoul Breton qui lui a montré la chanson. Et donc on a en même temps Charles Trenet, Yvette Giraud, Jacqueline François qui l'enregistrent. Mais c'est la version d'Yvette Giraud avec des arrangements d'Albert Lasserie qui remportera le Grand Prix du disque en 1952.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
Voilà Yvette Giraud qui nous a quittés donc cet été et à laquelle Martin Pémé consacre sa première chronique de l'année, suivie dans quelques semaines, donc un second tome si j'ose
oui,
dire.
Oui, sur la carrière internationale au Japon, etc., etc. Alors, puisqu'on parle de poésie, je voudrais vous signaler un coup de cœur pour le spectacle musical Georges Sand, Ma vie, mon œuvre, de et avec Caroline Loeb, mis en musique par Alex Lutz. Alors, après le Festival d'Avignon...
Caroline Loeb chante du Chopin, maintenant?
Non, elle chante des chansons qui sont dans ce spectacle qu'elle a écrites. Donc, après le Festival d'Avignon, ce cocktail d'humour et d'émotion est donné à Paris, au Théâtre du Gymnase, du jeudi au dimanche, à 19h45.
Eh bien, on va y aller, d'autant plus que moi, j'aime beaucoup Caroline Loeb, qui était d'ailleurs venue dans cette émission. Merci, Martin Péné, à très bientôt.
C'est un plaisir, Benoît, vous le savez.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique Stéphane Desmar et Ariane Herbé, avec le concours de Mégane Piard. Réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. J'aurai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, et j'ai envie de dire, François Belair, le fils de la grande Marie Dubas et l'homme au monde qui connaît le mieux l'histoire du music hall. Bon week-end à tous.